I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, parfois du haut de son grand âge, a tendance à se perdre un peu dans les méandres des franchises à succès, à force de voir passer, repasser les mêmes histoires vaguement remodelées, incarnées par de nouveaux visages, relancées, rebootées, remakées. On ne sait plus très bien à quel Stan Lee se vouer, d'autant que régulièrement nous annonce que tel ou tel épisode d'une saga à tiroir sera le dernier, promis, juré, après on arrête. En l'occurrence, il semblerait bien que X-Men Dark Phoenix soit bel et bien l'ultime entrée dans la franchise telle que nous la connaissons depuis bien longtemps déjà. Trop longtemps, diront les esprits chagrins, mais ça, c'est pas le genre de la maison. Surtout pas du duo de cinéphiles mutants qui m'accompagne, Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 193 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin si ça te plaît.
Dark Phoenix donc nous raconte la façon dont la mutante Jean Grey, incarnée par Sophie Turner, la Sansa Stark de Game of Thrones, se retrouve à absorber une maléfique entité spatiale. Pas spatial, parce que ça ne veut rien dire, entité qui la transforme en ce fameux phénix noir, la rendant certes ultra puissante, mais aussi ultra destructrice, ce qui va confronter ses petits camarades des X-Men à un choix cornélien, sauver leur ami ou la détruire pour se débarrasser de ce terrifiant nouvel adversaire.
We gotta get out of here.
Where's Jean?
Where is she? Jean!
She should be dead.
Did you hear what the kids are calling you? Phoenix.
Derrière la caméra, c'est pour la première fois Simon Kinberg, l'un des artisans majeurs de la saga X-Men, puisqu'il a signé les scripts de trois des films précédents, dont The Last Stand, le troisième, qui racontait déjà la saga du Phénix Noir, histoire effacée de la timeline des mutants grâce au film X-Men Days of Future Past, également écrit par Kinberg, qui décidément n'a peur de rien. Au casting, on retrouve les habitués des derniers épisodes de la franchise, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicolas Hoult, et quelques petits nouveaux, dont Jessica Chastain. Votre avis sur ce Dark Phoenix, les amis, qui va se lancer en premier dans ce très beau moment, je le sens, qu'on va passer ensemble. Daniel ?
Écoute, pour être sûr de ne pas redire les mêmes choses qu'on a dit la dernière fois, compliqué. Puisque c'était en 2016, c'était Stéphane et moi déjà à l'époque.
Tout à fait.
Sur Apocalypse.
Et j'étais bizarrement enjoué en sortant d'Apocalypse parce que j'avais vu un film crétin, ouais. Un film crétin qui m'avait quelque part donné du plaisir. Là, on est au niveau 0, on est au niveau moins 10, on est au niveau moins 20. Il n'y a pas de plaisir. Mais il n'y a pas de plaisir à aucune personne, à aucune étape de production de ce film. Ça se voit sur les visages. Ils sont tous obligés d'être là, ou alors il y a leur famille en otage, ou je sais pas quoi. Enfin,
on les a forcés à faire ce film.
Non, mais vraiment, Fassbender, tu vois, entre First Class et là, on est à No Class. Là, on est No Class du tout. C'est vraiment.
Il a travaillé celle-là.
Non, ma haine est totalement improvisée. Hein, non, vraiment, c'est nul à chier. Jennifer Lawrence, ils savent plus quoi en faire. Déjà dans le précédent, ils en avaient fait une gentille. Là, ils en fait. Est-ce qu'on peut déjà spoiler ou pas?
Oui, allons-y. Hein.
Là, il l'a sacrifié à l'hôtel. Du scénario, parce que forcément il faut des sacrifices. La dernière fois c'était Cyclops. Là on a un Cyclops aussi transparent que les autres. Et surtout, on avait souligné à quel point la Jean Grey était vraiment pas très bien. Donc c'est celle qui joue Sansa Stark.
C'est ça.
Et elle était pas très bien dans le précédent. Et grosse surprise, elle est vraiment pas très 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 bien là-dedans. Mais en fait, quelle est la surprise? C'était qu'ils auraient presque pu essayer justement de nous surprendre en essayant de faire un truc, un produit comic book ou quelque chose. Mais là, il y a vraiment, c'est nul, nul, nul de tout en bout. Et tous les gens, en fait, tout, le moindre petite seconde de ce film est poussive. C'est vraiment ultra pénible. On a rarement atteint un tel niveau. Je crois que il permet de relativiser la stand, en fait. On en est à ce point de vue-là. La stand a son petit charme à côté de ce qui se passe.
Même Brett Ratner a l'air bien.
Là, on est dans le niveau téléfilm. Ouais. C'est pas joué, c'est pas incarné. La simple logique de la logique physique des choses est niée à tout moment. Il n'y a pas d'antagoniste, puisque le seul antagoniste, c'est Dark Phoenix. Et tout d'un coup, il y a des mutants, enfin plutôt des extraterrestres qui sont parachutés, puisque dans l'histoire originale Dark Phoenix, il y a une opposition avec les extraterrestres. Oui. Donc ils se sont dit, comment introduire des extraterrestres qu'on n'a jamais vus de manière très intelligente? Ben, ils ont vu Spider-Man 3 de Sam Raimi. Ils se sont dit, putain, le symbiote qui tombe du ciel, c'était une bonne idée, on va faire ça. Et les extraterrestres, littéralement, ils tombent du ciel sur un lac. Putain, les gens sont en train de faire leur barbecue. Et là, c'est nul en tout point. Et je crois que j'ai trouvé exactement ce qui m'avait micro-satisfait dans le précédent. En fait, c'était qu'il y avait des côtés un peu tartes. Du coup, ils avaient mis Psylocke, qui est quand même la ninja mutant. Enfin, tu vois, tout d'un coup, elle débarque. Il n'y a aucun sens à ce qu'elle soit là, mais elle est là quand même. Il y avait un méchant qui essayait de faire le méchant. Là, il n'y a plus rien. Ils sont tous perdus. Nightcrawler, il est pathétique. Ils sont tous, c'est misérable. Et le pire, c'est quand Cyclops devient le mec qui s'en sort presque le mieux. Bah, c'est triste, en fait. Et ça nous rend en même temps témoin de à quel point Hugh Jackman était indispensable à ça. C'est que Hugh Jackman, au moins, il avait une espèce de présence, il incarnait quelque chose. Même si c'était pas, Hugh Jackman n'a jamais été vraiment mon Wolverine de cœur, mais au moins, il avait quelque chose qui apportait à ses films. Là, ils essayent de, c'est du céleri rémoulade de cinéma, c'est nul.
J'aime le concept de céleri rémoulade, même si je ne laisserai pas dire du mal du céleri rémoulade sur cette antenne. Ouais. Stéphane.
Non, mais là où Daniel a vraiment raison, c'est que oui, tu remets un peu en avant le Brett Ratner, ce qui est quand même, faut y arriver. Moi, suis même encore en train de débattre si c'est pas plus nul que X-Men Origins Wolverine, si tu veux.
Ah oui.
Qui était vraiment, je pense, le bas du bas.
Dernier stade.
Bah, ce qui est intéressant avec cette franchise aussi de X-Men, c'est que elle révèle un peu le talent des réalisateurs, parce que ça a toujours été la Bérésina, en fait. Hein. Ça fait très très longtemps, depuis en tout cas X-Men 3. Que c'est le bordel sur chaque production de chaque film. Et c'est juste que ça te révèle, du coup, si le réalisateur est plutôt bon ou pas, et s'il arrive à s'en sortir, c'était le bordel sur First Class. Bah, Matthew Vaughn a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, à essayer de faire le film qu'il voulait vraiment faire, qui pour moi est le meilleur de tous, en gros. Et globalement, bah, Simon Kinberg, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que déjà, Simon Kinberg, à la base, comme tu l'as dit, c'est un scénariste.
Oui, c'est son premier long métrage.
Ouais, et c'est un piètre scénariste, parce que c'est peut-être quelqu'un, il a une vue d'ensemble à la base sur X-Men depuis quelques années maintenant, et en fait c'est quelqu'un qui peut peut-être éventuellement dire oui, mais là ça serait bien qu'on conceptualise cet épisode, qu'on fasse ce truc là, mais quand il s'agit d'écrire à proprement parler des scènes et de jongler avec les thématiques, oui, de les mettre en avant, et c'est quand même une des forces à la base des tout premiers X-Men, on va dire, ceux de Bryan Singer, ceux de début des années 2000, t'avais au moins ça en fait qu'ils arrivaient à faire ressortir, et ce qui faisait que à une époque où le cinéma comic book c'était Spawn et compagnie, ça passait un peu plus sérieusement, quoi. Là, il y a même pas ça, en fait. C'est-à-dire que l'antagonisme de Dark Phoenix, il n'existe pas du tout. La raison pour laquelle ils font buter Mystique, c'est tout simplement parce qu'en fait, il faut qu'elle crée une situation. Elle a le pouvoir absolu.
Oui.
Et elle en fait littéralement rien. C'est-à-dire, le seul truc qui est fait, c'est deux oppositions dans une scène d'action avec Magneto, où, en gros, si tu veux, elle va mener un hélico d'un côté et lui va mener l'hélico de l'autre côté, parce qu'il faut sauver les gens ou les détruire, tu vois.
Ce genre de truc-là, elle est capable. Son seul acte, c'est de pousser Jennifer Lawrence sur un pieu. Hein.
C'est ça. Et le problème, en fait, c'est que du coup, tu te retrouves dans un truc où c'est pas, même là, c'est encore moins Dark Phoenix finalement que dans le Brett Ratner, puisque à la fin, elle essaye quand même de détruire la moitié de San Francisco dans le précédent. Donc, tu te retrouves avec un film qui est effectivement affreusement cheap, avec beaucoup beaucoup de problèmes de production, mais aussi beaucoup beaucoup de problèmes d'écriture, parce que finalement t'as l'impression que ça a beau durer deux heures, t'as l'impression qu'il y a en gros 20 séquences, mais qu'ils étirent à fond, ouais, jusqu'à arriver à une espèce de climax qui a été complètement re-shooté, et moi je trouve en dépit du sens, juste pour faire une scène spectaculaire dans un train, où d'un seul coup, parce qu'ils se sont, je pense, rendu compte que la plupart des super-héros n'utilisaient pas leur pouvoir en fait dans le film, d'un seul coup en fait tout le monde se met à se battre en même temps et faire du team-up pour pour sauver Jean Grey, parce qu'en fait je pense qu'ils se posent même pas la question de savoir s'ils veulent la détruire. En fait, depuis le début ils se disent bah, il faut qu'on la sauve, c'est pas sa faute, c'est Jessica Chastain qui est arrivée et qui lui a bourré le mou, quoi,
qui est extraterrestre. Mais elle était avec les gens qui faisaient un barbecue au début.
Et en fait, t'as tout un tas de... C'est un espèce de truc où tout converge, en fait, assez maladroit, enfin, même plus que maladroitement, vraiment, de façon... Enfin, rentrer au chausse-pied, vers cette scène. Et en gros, si tu veux, vers un pseudo-sacrifice, mais encore une fois, t'as l'impression qu'il est pas... Tous les enjeux, en fait, n'ont pas l'air de fonctionner du tout. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où tu te dis « Ah, mais c'était forcé, en fait, que ça se passe comme ça. » Même... dans cette merde, hein, il faut le répéter, parce qu'on va avoir donné l'impression que c'est un bon film, Last End, mais même dans cette merde de Last End, il y avait des enjeux, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est là où ça devient compliqué. Effectivement, comme tu l'as dit, ça fait quand même maintenant 20 ans que X-Men existe. Il y a aussi cette problématique, et je pense que quand tu la compares à ce que fait Marvel aujourd'hui, c'est là aussi où ils ont un problème avec ça. C'est que moi, enfin, encore une fois, je vais pas revenir sur ce que je pense des Marvel, du MCU, mais globalement, la façon, par exemple, de démontrer les pouvoirs, ce qui pouvait être un problème au début des années 2000, parce que les mecs n'avaient pas forcément la conscience de mettre en scène ça. Moi, je pense que c'est stupide, parce que Sam Raimi l'a fait, par exemple. Oui. Voilà. Mais là, ça atteint son paroxysme. C'était vraiment, en fait, Jean Grey, Magneto, tout ça, ils sont en train d'onduler du cul pour te faire croire qu'ils font voler des hélicos ou qu'ils font voler des trucs, tu vois. Et en fait, on va dire le seul apport entre guillemets de mise en scène qu'essaye d'avoir Simon Kinberg là-dessus, c'est en fait la caméra à l'épaule. Super, ça manquait, tu vois, c'est exactement ce qui manquait en fait dans X-Men, tu vois, à la base. Quoi. Voilà. Et donc t'as des scènes comme ça où Magneto à la fin il a des pseudo, pas des plans séquences, c'est un bien grand mot, mais des plans séquences de 20 secondes où en gros, si tu veux, il enchaîne 4 mecs en même temps. Et en fait, en utilisant ses pouvoirs, et du coup, tu te dis, ça aurait été pas mal d'utiliser tes pouvoirs pour stabiliser la caméra aussi, parce que, en fait, on voit rien. Et du coup, c'est que des trucs comme ça, ça fonctionne pas. Lui, il cite ouvertement Jason Bourne, hein, comme référence, mais il faut pas, et puis surtout, il faut pas 15 ans après, quoi.
Bourne.
Ouais, voilà. Et donc, t'as ce truc, et puis après, il y a cette problématique, je pense, parce que bon, faut savoir que c'est aussi, encore une fois, je pense, un film sacrifié aujourd'hui qui sort.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le premier gros blockbuster de la Fox qui sort sous l'égide de Disney. Il y a des enjeux qui nous dépassent complètement, je pense, là-dedans. Là, la façon dont ils le vendent, il y a vaguement une affiche qui ressemble à celle du dernier, là, de Endgame. Il y a une bande-annonce qui ressemble à celle de Endgame parce qu'ils font une espèce de trailer Legacy. Et je pense que quand on dit c'est le dernier, c'est que oui, il n'y a aucune chance qu'ils se satisfassent de ça. Peut-être qu'ils vont garder Deadpool comme ils avaient l'air de dire, mais ça, c'est juste parce que ça cartonne. Là, moi, je pense que. Ouais, on va voir hein, les scores ce week-end.
Avec l'eau du bain, là, c'est fini.
Oui, je pense que c'est réglé, quoi. Le sort il est réglé, mais en fait c'est pareil, c'est un film qui a été tourné il y a 2 ans,
oui.
Donc il y a eu énormément de reshoot, énormément de trucs, et je pense que le film qui arrive aujourd'hui, il en pâtit aussi de ça, oui, c'est-à-dire pas seulement de l'aspect politique et en fait de passer d'un studio à l'autre, mais vraiment aussi, bon, il y a je pense l'inexpérience de Simon Kinberg en tant que réal, même si apparemment il jure ses grands dieux, parce que la vraie problématique aussi des X-Men, c'est qu'à un moment donné, il fallait se débarrasser de Bryan Singer. Oui. Ils avaient un très très gros problème avec ça sur Apocalypse. Bon, on a vu ce qui s'est passé depuis sur Bohemian Rhapsody. On connaît toutes les
affaires.
Finalement,
c'est Freddie Mercury qui en aurait eu sa peau.
Ouais, non mais aussi, on connaît toutes les affaires de harcèlement et tout ça, etc., qui sont sorties aussi. Donc, il est vraiment persona non grata. Et en fait, ça, c'était depuis un moment qu'il voulait plus l'avoir. Et voilà. Donc, le remplacer pour avoir finalement quelqu'un qui shoot le film de façon aussi impersonnelle, c'est.
C'est ça qui est tragique avec ce film, c'est qu'il a même pas le charme, parce que moi j'aime bien les grands films cassés en fait, ouais. Les films qui ont quelque chose, il a même pas ça en fait, parce que je pense à les films de la Fox, ceux qui sont toujours dans cette zone grise, par exemple je pense à Predators, tu vois, il y a des films qui, tu sens que ils ont bâclé le truc parce qu'il y avait les signatures de studio, et tous les films qui arrivent de Fox justement, là ils ont un truc comme ça, un truc d'urgence, là c'est pas de l'urgence qu'on voit, c'est des graffitis, enfin c'est vraiment à ce niveau-là. Il faut voir aussi avec quel non-enthousiasme il adapte à chaque fois quand même Dark Phoenix Saga, qui, alors dans Dark Phoenix Saga, il y a un mot qui est important, c'est saga en fait, c'est que c'est une bande dessinée qui s'étend sur la longueur et qui établit un personnage que tout le monde connaît, et au fur et à mesure on la voit basculer, mais c'est pas soudain, et le fait est de basculer soudainement quelqu'un dans le côté obscur, ça fait en général rigoler, que ça soit en film ou en série. On pense par exemple à une série Game of Thrones, tu vois, tout le monde rigole dès que tu bascules trop brusquement,
parce que là tu vas spoiler Game of Thrones pour ceux qui s'attendent pas à ce qu'on spoil Game of Thrones par-dessus le marché, quoi.
Non, non. Ouais. Mais il y a eu des basculements. Mais, le fait est qu'il s'acharne à adapter ça en film, alors que c'est clairement quelque chose qui passerait peut-être mieux en série télé, en fait.
Pourquoi pas, je veux dire, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'attendre 7 ans pour voir arriver Thanos non plus, hein, tu vois, je veux dire, juste parce qu'en fait, le mec, il apparaît dans un générique de fin, il fait, hey, salut, tu vois, ah,
ouais, mais Thanos, c'est un cas différent, je veux dire, c'est pas une histoire au long terme. C'est pas une histoire au long terme. La saga, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que c'est une saga, c'est que il faut la voir sur la durée,
Je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tous ces films-là, ils perdent aussi le sens du récit.
Mais c'est pas quelque chose qui doit être fait en film, en fait. Ouais. Tout simplement, je pense, c'est,
il s'obstine
en se disant, ah oh là là, j'ai compris à chaque fois, ce qu'est Dark Phoenix Saga, et du coup, je vais le faire. Donc, il a fait Last Stand, il a fait celui-là. Mais en fait, dès le début, il se fourre le doigt dans l'œil. Enfin, je veux dire, ça, Jean Grey, il en fait une espèce de, d'assassin victime, puisque dès la première séquence, elle tue sa mère, par accident. Enfin, c'est des trucs, pourquoi il a écrit ça? C'est jamais été dans une BD, mais ils se sont dit, bon, faut la faire un peu victime, faut la faire aussi pour expliquer qu'elle va devenir méchante et que c'est de la psychologie à deux balles, c'est vraiment très, c'est ça qui est le paradoxe, c'est que pour l'instant les films de comics, surtout de Marvel, ils essayent quand même de respecter quand même une espèce de dogma, ils essayent de respecter des templates de personnages qui existent déjà. Avec les X-Men, dès le début, ça a marché, mais ils ont essayé d'adapter à leur propre sauce les costumes en cuir, ils ont essayé de faire plein de d'éléments qui sont pris et qui ont fonctionné. Mais le problème est, c'est que là, dans ce film-là, on voit clairement, ils se sont pas dit qu'est-ce qu'on garde parce qu'il faut le garder, ils disent qu'est-ce qu'on peut changer. Et clairement, c'est un truc où ils ont tout changé et finalement, ça se finit dans un train. La grande Dark Phoenix saga, elle se finit dans un TER de merde. C'est nul.
Une scène digne de Piège à grande vitesse.
Très bien.
Ah, très très bien, très très bien.
Chef-d'œuvre. Justement, puisqu'on parle de grands films, pour terminer, on va faire un petit tour de recommandations, si vous le voulez bien, chers amis, qui peut se situer dans l'univers de votre champ. On peut s'éloigner totalement de celui des X-Men qu'on a bien balisé, là, je crois. Daniel.
Bah écoute, moi je pense, comme d'habitude, il faut revenir à la source de la qualité.
Matériaux d'origine.
Donc je voulais recommander en début la BD Anaconda, mais non, je vais pas te faire ça.
Elle n'existe pas.
Je vais pas te faire ça.
C'est une création originale.
Elle est en cours d'écriture.
Mais par contre, je vais pas recommander non plus Dark Phoenix Saga, qui est quand même l'histoire pop culturelle la plus importante du monde de la BD, et même au-delà des États-Unis des années 80, même devant Watchmen. Et alors, ça serait con de le recommander parce que normalement tu devrais l'avoir lu. Alors, dans cette poursuite de Dark Phoenix Saga, les gens qui ont essayé de refaire, il y en a un qui a réussi. C'est une autre BD et c'est Grant Morrison, puisque son New X-Men, si tu regardes bien, si tu le relis, alors il s'est publié en omnibus, il appuie sur exactement tous les points de Dark Phoenix Saga, mais en rajoutant l'élément de l'école, qui est quand même le truc auquel les films n'ont pas renoncé. Il y a toujours cet élément de l'école. Oui. Et du coup, si tu relis Grant Morrison aujourd'hui, il avait tout compris à Dark Phoenix Saga. L'antagoniste, la montée en puissance, il faut une bonne histoire de Magneto, il faut un traître dans ton école. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui font que Grant Morrison, il avait saisi le truc et il avait réussi à mettre à jour ça. C'est le paradoxe, c'est que quand il a commencé Grant Morrison son run, c'était justement quand les X-Men commençaient. Et du coup, il y a eu des gens qui sont arrivés sur son comics, sur ce comics à cause des films, et en se disant putain, c'est vraiment bien, et ça a duré que quelques années, mais voilà. Donc ça vaut le coup de se replonger dedans, si vous voulez, Grant Morrison sur New X-Men. C'est un gros pavé, c'est plus de 50 numéros, mais alors c'est vraiment super.
Stéphane?
J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré un ciné, tu vois.
C'est
donc, en fait, je me suis dit, mais alors,
qu'est-ce que je vais pouvoir recommander?
Aujourd'hui que sort X-Men.
Ouais.
Hein, puisqu'on diffuse aujourd'hui, hein, on est d'accord. Voilà. Ouais, et c'est le même jour que la Palme d'Or, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Et la Palme d'Or, moi, je l'ai pas vu encore, la Palme d'Or. Hein,
Parasite.
Parasite de Bong Joon-ho. Qui a surpris tout le monde, tu vois.
Bien sûr.
Donc moi, je pense qu'en fait, ils auraient pu quand même aller un peu plus loin, parce que moi, je pensais qu'ils allaient vraiment encore plus surprendre leur monde, tu vois, et donner la Palme d'Or à un film qui était pas du tout dans la sélection.
La sélection.
Qui aurait été, je sais pas, moi, au hasard, Anaconda, tu vois, de Luis Loza, qui a quand même déjà eu plusieurs fois la Palme d'Or aussi, hein. Donc,
Luis Loza, oui, bien sûr.
Mais pas pour Anaconda. Alors,
jamais pour Anaconda.
Film, c'est vrai que j'ai jamais parlé d'Anaconda dans ce podcast.
Jamais.
Et voilà, donc, je suis fatigué.
C'est très
Thomas, poussif. Tu me pousses.
Fatigué,
tu vois, voilà. Il fait chaud.
On s'est engagé sur un truc. On a dit jusqu'à la fin de la saison.
Mais c'est l'épisode combien, là?
193.
Tu pourrais pas recommander, par exemple, G.I. Joe, dont le méchant est Cobra Commander, un autre serpent?
Non, C'est idiot, tu demanderas à Perrine.
Et d'ailleurs, on demandera à Perrine.
Voilà. Non, mais alors, il reste quoi, 7 épisodes là ?
C'est, ouais.
Bon, j'en zappe 5. Et je reviens dans, au 199. Voilà.
Très bien, ok.
Avec Anaconda.
Et bah super. Et notre tour est écoulé. Oui. Merci à tous les deux. Merci à Thomas, merci à la technique et à Juliette à la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Binge.